de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et curieux, pour partager les recherches les plus inattendues et les plus inouïes menées par de sacrées femmes de science, de Nairobi à Paris, de Niamey à Washington, et jusque sur Mars et Titan, rencontres avec des chercheuses d'exception. Sur les traces de la matière cachée de l'univers, dans l'intimité des virus et des blobs, en quête de vie extraterrestre et d'équité sur Terre. Car s'il y a un point commun entre toutes ces chercheuses remarquables, qu'on commence heureusement à remarquer, c'est bien la liberté de ton et d'action sur tous les sujets, même ceux qui fâchent. À suivre avec la formidable anthropologue de la santé Aïssa Diarra, l'immunologiste et entrepreneuse Yvonne Bourou, l'astrophysicienne Nabila Aghanim, la spécialiste des blobs Audrey Dussutour et l'astrochimiste Caroline Fraissinet. Et tout ça en compagnie de la virologue et indispensable passeuse de science Tania Louis, qui sera en direct par téléphone avec nous pour partager son parcours peu commun autour de la question jusqu'où nous entraîneront ces femmes de science. On va commencer par une grande bouffée d'inspiration à l'écoute de Faji Zauna Meina, la première chercheuse nigérienne de la NASA. À 29 ans, cette brillante hydrologue originaire de Zinder, classée parmi les 30 jeunes scientifiques les plus influents par le magazine Forbes, est en effet la première, homme et femme confondues, hein, la première scientifique du Niger à avoir été recrutée par l'agence Goddard de la NASA à Washington pour modéliser, à partir des données satellites, l'impact des climats extrêmes sur les ressources en eau. Une recherche à la fois fondamentale et appliquée, mais surtout essentielle, comme source d'inspiration à tous les sens du terme. Faji Zauna Meina, de Zinder jusqu'à la NASA à Washington, récit d'un parcours hors norme au micro de notre reporter Charlie Dupuy.
Je suis née à Zinder, c'est une ville du Niger qui est très connue pour des problèmes en eau. Environ 6 mois dans l'année, les gens n'ont pas suffisamment d'eau, donc j'ai grandi en voyant beaucoup de jeunes filles aller chercher l'eau avec un seau sur la tête tous les jours. Donc il y a le problème d'eau qui engendre aussi un autre problème, qui est l'éducation de la jeune fille. Donc, on commence à se poser des questions. Et l'autre question aussi que je me suis toujours demandé, je me dis, moi, mes parents avaient un forage dans la maison. Si nous, on peut avoir ce forage qui donnait de l'eau toutes les 24 heures, pourquoi ces jeunes filles aussi ne peuvent pas avoir? C'est le genre de questions d'enfants qu'on se pose. Et après, j'ai toujours été curieuse. Donc, c'est de là qu'est née ma passion pour l'hydrologie, la science de l'eau. Et je me suis intéressée à ce problème parce que je voulais apporter des solutions à mon peuple. En fait, je ne savais pas comment m'y prendre parce que aussi, quand on grandit au Niger, on n'a pas trop accès à la science. Je n'ai pas connu de scientifique dans ma vie quand j'étais au Niger. Ce n'était pas un métier que je voyais. Mais quand j'ai découvert la science, je me suis dit, oui, ça peut être une réponse à mes questions. Après mon bac à Zinder, j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans parce que j'avais sauté 2 classes. Je suis partie au Maroc pour faire une licence en géologie, en sciences de la Terre et de l'univers. Et après ma licence au Maroc, je suis allée en France où j'ai fait un master à l'Université de Strasbourg en ingénierie et sciences de l'environnement, puis un doctorat en hydrologie. Après, j'ai travaillé 6 mois au CNRS en France et après, je suis allée en Italie pour faire plus d'un an de postdoc à l'École polytechnique de Milan. Après Milan, comme j'aime bien bouger, je suis venue aux États-Unis. J'étais d'abord en Californie, au laboratoire de Berkeley, où je suis restée 2 ans et demi. En Californie, j'avais étudié l'impact des incendies qui sont très connus en Californie sur les ressources en eau. Et sur ça, on s'est basé sur des données satellitaires avec de l'informatique. Après, je me suis dit, oui, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire plus tard. Donc, on essaie de comprendre, par exemple, comment cette augmentation de température va changer nos ressources en eau. Et ces données satellitaires nous permettent aujourd'hui de bien comprendre le monde et la Terre. Parce que les satellites, ils tournent autour de la Terre et ils prennent des mesures partout. Par exemple, au Niger, on n'a pas assez de moyens pour avoir des instruments, pour avoir des stations météo partout. Mais en fait, on peut utiliser ces données satellitaires pour avoir des informations. Et quand on dit données satellitaires, on sait très bien que la NASA est le leader dans ce domaine. J'ai commencé à m'intéresser à la NASA. Et j'ai juste postulé comme ça. J'ai été recrutée.
Et donc, vous avez été prise à la NASA, au sein de cette agence spatiale américaine.
J'ai commencé à travailler à la NASA en août 2020. Je l'avais dit sur les réseaux sociaux, c'était devenu viral. Et j'ai eu l'appel même du président de la République du Niger qui m'a félicité. Et c'est instant aussi, on se dit que waouh. Et c'est instant que j'ai commencé à faire des réflexions sur d'où je venais, de Zender et de tous les obstacles. En fait, c'est presque impossible quand on pense qu'une fille de Zender, sachant que les filles au Niger, elles sont mariées très tôt, elles n'ont pas accès aux études, être là où je suis. Et que le monde de la recherche aussi, il faut le dire, même à l'échelle mondiale, il est masculin.
Et alors justement, pour vous, comment faut-il encourager d'autres filles nigériennes à faire des études dans le domaine des sciences?
C'est vrai qu'au Niger, on a un vrai souci d'éducation de la jeune fille. Ce n'est pas toutes les filles qui partent à l'école et qui ont le bac et qui arrivent à faire des longues études. Hommes ou femmes au Niger, on a des soucis pour faire de longues études. Donc, quand je pars au Niger en général, j'essaie d'avoir des séances pour mieux informer les gens, parce que ce qui manque aussi, c'est l'information. On ne connaît pas ce monde de science, on ne sait pas comment la science marche, on ne connaît pas c'est le monde d'études. Donc je me dis, je pars du principe que si on essaye de dire aux gens que c'est possible de le faire, il y a toutes ces opportunités. Moi, mes parents ne m'ont pas payé des études, j'ai juste eu des bourses tout au long de mes cursus. Donc il faut aussi les informer qu'il y a toutes ces opportunités, que ce soit de bourses que vous pouvez aller postuler et avoir pour aller faire des études. Leur faire comprendre que c'est possible. On ne va pas avoir les meilleures choses quand on est né au Niger, mais on peut utiliser ce qu'on a pour sortir le meilleur.
Sortir le meilleur, c'est possible. Fadji Zaouna Meina, la première chercheuse nigérienne recrutée par la NASA, modeste, brillante, lucide, dynamique, au micro de Charlie Dupio. Bonjour Tania Louis.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous autour de la question jusqu'où nous entraîneront les femmes de science. Alors, comme Fadji Zaouna Meina, j'imagine que ces propos, le parcours de cette jeune chercheuse de 29 ans de Zinder jusqu'à Washington, recrutée par la NASA pour modéliser par satellite les ressources en eau et que rien ne prédestinait pour le devenir, doit vous inspirer, Tania. Je rappellerai que vous êtes vous-même, Tania Louis, virologue de formation. Vous avez vous aussi suivi un brillant parcours de chercheuse avant de vous diriger vers la médiation scientifique avec votre chaîne YouTube Biologie tout compris ou sur le toujours surprenant Virovlog. Vous êtes aussi auteur aux éditions Humaines Sciences d'un ouvrage passionnant intitulé La folle histoire des virus, une folle histoire carrément. Vous n'avez pas votre pareil d'ailleurs pour nous faire passer cette folle histoire pour le meilleur comme pour le pire, on le voit aujourd'hui, on y reviendra. Mais vous non plus, Tania Louis, rien ne vous prédestinait à devenir une passeuse de science. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire réagir à ce parcours de Fadji Zaouna Meina.
Oui, c'est vrai que bon, le chemin qu'elle a parcouru est particulièrement impressionnant. Hein, mais il y a beaucoup de son témoignage qui a fait écho à ma propre expérience. Puisque moi non plus, je ne connaissais pas du tout de chercheurs. J'avais pas de scientifiques dans mon entourage quand j'ai grandi. En fait, je suis rentrée en laboratoire pour la première fois de ma vie quand je suis allée faire un stage en troisième année de licence. Donc les études étaient déjà bien lancées. Et moi aussi, j'ai financé l'intégralité de mes études avec des bourses. Donc même si, évidemment, le chemin est très différent et j'ai une grande admiration pour sa ténacité et son optimisme, finalement, ce qu'on vient d'entendre dans le reportage m'a rappelé pas mal de souvenirs aussi.
C'est ça, rien ne vous prédestinait non plus. Vous ne venez pas d'une famille ni de scientifiques ni de gens qui ont fait tellement d'études que ça, parce que vous avez fait de très brillantes études, Tania Louis.
Oui, donc moi, pour le dire très clairement, aucun de mes parents n'a le bac.
Ah oui.
Mon père a même arrêté l'école en cinquième au moment où il aurait dû redoubler sa cinquième. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que mes parents ne sont pas des gens intelligents.
Bien sûr.
Loin de là. Je viens d'une famille où, en fait, il y a un gros capital culturel, puisque mon père est musicien, ma mère était danseuse, etc. Donc plutôt d'une famille d'artistes, mais pas du tout d'une famille de scientifiques ou de gens qui ont fait des études supérieures. Et moi, tout mon parcours professionnel s'est décidé sur un salon d'orientation, en fait, où on nous oblige à aller quand on est au lycée, et finalement c'est très bien, parce que j'avais décidé à l'époque que je voulais devenir maîtresse de conférence, et je suis allée voir une personne du CNRS qui était toute seule derrière une petite table, qui n'a sans doute pas vu grand monde dans cette journée-là, mais elle m'a vu moi, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire comme étude pour devenir maîtresse de conférence, Et elle m'a répondu que si j'avais des bonnes notes, l'idéal c'était d'aller en classe préparatoire pour intégrer l'école normale supérieure et faire une thèse.
C'est-à-dire et le top du top, le sommet. Hein.
Moi j'avais des bonnes notes, j'avais aucune idée de ce qu'était l'école normale supérieure, hein, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais du coup, j'ai docilement suivi ce conseil. Je suis allée en classe préparatoire, j'ai intégré l'école normale supérieure et j'ai fait une thèse. Voilà, parce qu'on m'avait conseillé de le faire et que ça a marché.
Et parce que vous aviez de l'appétence pour cela et que vous aimiez cela, vous vous destiniez d'ailleurs à des études, enfin maîtresse de conférences, chercheuse, de chercheuse en biologie, en virologie, que vous auriez pu faire. Mais vous avez quoi ? Suivi votre instinct de dire finalement, j'ai quand même envie de faire ce qui me plaît en devenant plutôt médiatrice scientifique, en faisant passer le meilleur de la science ou en tout cas la science à la société ?
J'ai toujours eu cette envie de transmission. C'est pour ça que j'envisageais de devenir maîtresse de conférence, c'est-à-dire enseignante-chercheuse et uniquement chercheuse. Et en fait, je pense que c'est un des messages importants que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Le premier était déjà présent dans le reportage, c'est de se dire que c'est possible. C'est la première étape, vraiment, pour sortir du milieu dans lequel on a grandi et tenter quelque chose, ne pas s'auto-censurer en se disant que de toute façon, on n'y arrivera pas. Il y a suffisamment de gens qui vont vous dire que vous n'allez pas y arriver pour que vous n'en fassiez pas partie, en fait. Dites-vous que c'est possible et faites-le. Et moi, je pense que c'est une de mes grandes chances, c'est que jamais personne m'a dit « Ah non, tu pourras pas ». Du coup, j'ai essayé. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on réussit. Hein. De fait, je ne suis pas maîtresse de conférence aujourd'hui, mais j'ai quand même avancé dans une direction qui me plaisait. Et finalement, ce n'est pas ce poste-là qui me convenait le mieux. Parce que c'est difficile d'être recrutée en tant que maîtresse de conférence, il y a pas mal d'années de sacrifices, c'est un concours à la fin qu'on n'est pas sûr d'avoir, etc. Et on connaît bien l'état actuel de la recherche en France, et absolument. J'avais pas envie de travailler dans ce contexte-là. Mais du coup, j'ai trouvé un autre métier pour lequel ma formation était quand même utile et qui correspond complètement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire continuer à apprendre tous les jours, rester au contact des sciences et les transmettre. Donc je me suis dit que ce n'était pas impossible, j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, mais je fais quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc et ça vaut la peine de tenter au départ.
Ça vaut la peine, hein. On peut s'en rendre compte donc, sur votre chaîne YouTube, Biologie tout compris, mais aussi dans cet ouvrage. Hein, vous avez reçu d'ailleurs à ce sujet avec le professeur Olivier Schwartz hein, de l'Institut Pasteur, qui avait été votre professeur, parce que vous avez publié, Tania Louis, La folle histoire des virus, un ouvrage passionnant où l'on découvre à quel point les virus nous entraînent là où on ne s'y attend pas, hein, pour le meilleur comme pour le pire, en pleine crise pandémique évidemment, mais c'est-à-dire que vous avez aussi écrit cet ouvrage qui est aussi une sorte d'ouvrage de référence, très facile à lire, mais d'ouvrage de référence finalement sur les virus. Donc vous pouvez aller jusque-là dans cette médiation scientifique.
Oui, et ça aussi finalement c'est une opportunité que je n'avais pas vue venir, mais que j'ai saisie sans beaucoup hésiter quand elle s'est présentée à moi, parce que bon, j'aime beaucoup écrire. Et en fait, le projet de ce livre m'a été proposé par mon éditrice, mais on l'a vraiment co-construit. C'est-à-dire que le contenu de La folle histoire des virus, ça correspond à quelque chose que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Et quand j'en ai parlé à l'éditrice qui m'avait contactée, donc à Madame Olivia Récassens, elle m'a dit « banco, tout de suite ».
Et projet que vous vouliez faire partager depuis longtemps, en quelques mots juste, c'est de nous dire à quel point c'est compliqué, complexe, mais extrêmement passionnant, ces virus, ces autres formes de vie qui nous permettent d'être en vie et qui peuvent aussi nous détruire.
Oui, en fait, une des choses qui m'a attirée vers la virologie, c'est le jour où j'ai compris que les virus ne sont pas que des petites choses qui nous rendent malades. C'est la vision qu'on en a généralement, hein, parce que c'est pour ça qu'on les connaît. Mais en fait, sans les virus, nous n'aurions pas de placenta. Les virus régulent les populations de microbes dans nos océans et sont vraisemblablement aussi impliqués dans le cycle du carbone. Les virus sont vraiment partout et sont des acteurs majeurs de nos écosystèmes. Il y a plus de virus que de cellules humaines dans votre corps, mais ça ne vous pose pas de problème parce que la plupart de ces virus infectent des bactéries, par exemple. Vu qu'il y a à peu près autant de bactéries que de cellules dans votre corps.
Eh bien voilà, on voit qu'on n'a pas fini. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs internautes, auditrices internautes, sur votre ouvrage « La folle histoire des virus » aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup, Tania Louis. Autour de la question « Jusqu'où nous entraîneront les femmes de science ?» Vous restez en ligne, hein, à l'écoute. Si vous le voulez bien, accrochez-vous parce qu'on ira jusque sur Mars et Titan. chercher des traces de vie extraterrestre avec l'astrochimiste Caroline Frayssinet, à la découverte de la matière ordinaire cachée de l'univers, rien que ça, avec celle qui l'a découverte, la physicienne algérienne Nabila Aghanim. On partira aussi sur les traces des blobs, ces fascinantes et peu ragoûtantes créatures, ces génies sans cerveau étudiés par Audrey Dussutour, et dans la série Empêcheuse de penser en rond, on prêtera une oreille attentive à l'anthropologue nigérienne Aïssa Diarra sur la science ouverte, mais à qui, pour qui et grâce à qui, du sud au nord et du nord au sud, on n'évitera aucune question qui fâche. En ligne depuis Nairobi au Kenya avec l'immunologiste Yvonne Bourou. Sacré programme, ambiancé tout de suite par Sona Jobarté à la Cora sur RFI. Cette chanteuse et compositrice anglo-gambienne, issue d'une des principales lignées de griots d'Afrique de l'Est, cousine de Toumani Diabaté entre autres, est la première femme joueuse professionnelle de Cora en public. À écouter sans modération, tout de suite sur RFI, Sona Jobarté. Au rythme de la Cora de Sona Jobarté sur RFI, autour de la question jusqu'où nous entraîneront les femmes d'art et de science, c'est sur la piste du blob maintenant, sorte d'ovni, d'organisme vivant non identifié, ni animal, ni végétal, que nous entraîne une autre chercheuse d'exception, l'éthologue Audrey Dussutour, devenue après d'être spécialiste des fourmis, spécialiste mondiale du blob, cette étrange et fascinante créature composée d'une seule et unique cellule qui n'a ni bouche, ni estomac, ni système nerveux, ni cerveau, ni yeux, ni pattes, et pourtant le blob mange, se déplace, perçoit la lumière, change de forme à volonté et serait même dotée de mémoire, selon Audrey Dussutour, qui nous fait partager ses dernières recherches sur le blob, ce génie sans cerveau.
C'est une cellule qui double de taille tous les jours si on lui donne à manger à sa faim. Donc, il faut savoir que le blob peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés pour une cellule. C'est assez extraordinaire. Parce que habituellement, les cellules, on ne peut pas les voir.
C'est ça. Alors que là, on peut le voir. C'est comme un espèce des filaments, disons.
C'est ça. C'est comme un réseau de veines jaunes vives. Bon, c'est assez incroyable hein, au niveau de la couleur. Mais par contre, il est assez discret dans la nature. Vous n'allez pas le voir assez facilement. Il faut vraiment aller sous les écorces parce qu'il se cache de la lumière. Et il aime bien avoir vers les endroits humides, en fait. Donc, il faut vraiment fouiller un petit peu sous les feuilles mortes en forêt. Et donc, oui, c'est un espèce de réseau jaune qui avance et plus il mange, plus il grossit. Donc, on a certaines lignées au laboratoire qui peuvent même quadrupler de taille tous les jours.
Il aime les flocons d'avoine, hein, c'est ça le blob.
C'est ça. Alors, en laboratoire, il mange des flocons d'avoine. Dans la nature, il mange des champignons et des bactéries. Et nous, on avait essayé de voir comment le blob, en fait, régulait ses besoins alimentaires. Et pour cela, il nous fallait faire une nourriture que l'on pouvait contrôler. Et donc, on a créé des flans, un petit peu des crèmes brûlées pour blob, où on faisait varier finalement les protéines et les sucres. Et on s'est aperçu que le blob était tout à fait capable de défendre ce qu'on appelle un régime nutritionnel optimal, c'est-à-dire que son flan préféré était deux fois plus de protéines que de sucre. Et il ne s'y trompait pas. Si on le mettait dans une cafétéria, par exemple, qui présentait différents flans, il allait de suite vers celui qui maximisait sa croissance.
C'est ça, toujours sans cerveau, régime optimal. Je ne sais pas si les blobs, c'est culturel, mais enfin, il n'a pas le même goût selon qu'il vient d'Australie, de France, du Japon ou des États-Unis, c'est ça, Audrey ?
Oui, c'est tout à fait. Alors, quand on a commencé à travailler sur les blobs, on travaillait sur les blobs australiens et on les nourrissait avec des flocons d'avoine bio. Et un jour, on s'est dit, bon, on va faire venir des blobs d'autres endroits. Et on a fait venir un blob américain. Et il a refusé catégoriquement de manger les flocons d'avoine bio. Il a préféré sortir de son petit conteneur. Et il a préféré aller fouiller dans la poubelle.
Parce qu'il préférait une autre, on ne va pas citer la marque, hein, mais une marque américaine. Hein. C'était un blob
c'est
américain.
Ça, une marque américaine bien connue que l'on trouve facilement en supermarché.
C'est ça, et bien plus chimique. Vous essayez à travers ce modèle incroyable, hein, qui est un modèle incroyable pour les scientifiques, qui n'a plus aucun lien, on ne sait pas, effectivement, c'est ni un champignon, ni un animal, ni une plante. Mais par contre, on sait qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de système nerveux. Mais vous avez démontré, hein, c'était parmi vos premiers travaux, qu'il est capable d'apprentissage. Et même l'année dernière, je crois, vous avez publié également une étude confirmant qu'il était capable de mémoriser. Mais c'est quoi sa mémoire, la mémoire de blob qui n'a pas de cerveau et qui n'a pas de système nerveux?
Oui, c'est ça. Alors, le blob, il faut savoir que c'est un organisme qui appartient à un règne qui s'appelle les amibozoaires. Donc, c'est un règne avant les champignons et les animaux. Donc, c'est encore plus ancien. Et donc, on s'intéresse à lui parce qu'on se demande si les origines, finalement, de ses capacités, de cette intelligence, ne seraient pas encore plus loin dans l'arbre de l'évolution. Et en effet, on a démontré que le blob pouvait apprendre à ignorer les choses qu'il n'aime pas. Donc, on lui a appris à ignorer, par exemple, du sel, de la caféine. Et l'année dernière, on a démontré que le blob pouvait mémoriser cette information pendant plus d'un an si on le laissait entrer en dormance juste après l'apprentissage, c'est-à-dire sécher et ne plus bouger, rentrer vraiment, c'est un système comme d'hibernation. Mmh. Et quand il s'endort comme ça, il garde la mémoire. Et si on le réveille, il va se rappeler d'un apprentissage qu'il a eu avant de s'endormir.
Ah, c'est-à-dire qu'avant de s'endormir, parce que là, il rétrécit, il change complètement de forme. Il s'assèche.
Ah oui, alors il devient un tout petit réseau. Voilà, il est tout petit, on dirait un petit lichen orange. Il rétrécit énormément et il est complètement lyophilisé. En réalité, il n'y a plus d'eau pratiquement. Il se débarrasse de 98% de ses molécules d'eau. Donc c'est une toute petite structure toute sèche qu'on peut garder comme ça pendant des années. Dans un tiroir. Et quand on veut le réveiller, on a juste à mettre un petit peu d'eau dessus et il se réveille automatiquement.
Jusqu'où nous entraînera le blob, ce génie sans cerveau, étudié, élevé, séché, réanimé, ressuscité presque par Audrey Dussutour, dans la série de ces ovnis, de ces organismes vivants non identifiés, extrémophiles? Il y a peut-être encore plus fort que le blob. Encore faut-il aller le chercher ailleurs, dans l'espace, ailleurs que sur Terre? Y aurait-il d'autres formes de vie extraterrestres? C'est précisément ce que recherche l'astrochimiste Caroline Fraissinet du laboratoire Latmos du CNRS. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront toutes ces femmes de science, c'est sur Mars, mais aussi sur Titan, que va nous entraîner l'exobiologiste donc Caroline Fraissinet, qui a découvert la première molécule organique martienne. Rien que ça. Elle collabore avec toutes les grandes missions martiennes. C'est elle aussi qui pense et même construit en amont les instruments embarqués sur les rovers d'exploration martienne de la NASA et de l'ESA, comme Curiosity, Perseverance et ExoMars. On écoute Caroline Fraissinet.
On va imaginer un instrument qui va pouvoir aller rechercher des traces de vie, répondre à des appels d'offres pour le mettre sur les bonnes missions. Donc, espérer être sélectionné, ce qui est le cas de temps en temps. Il y a beaucoup d'échecs, mais il y a quelques succès de temps en temps. Et c'est sur cela qu'on va vraiment se focaliser. Et ensuite, construire cet instrument, qui est la phase suivante. Et ensuite, opérer cet instrument, c'est-à-dire récupérer les données, les analyser, faire des expériences en laboratoire pour essayer de les comprendre. Parce que Mars nous parle, mais Mars nous parle en martien. Donc, il faut décrypter ce langage. Ça va être pareil pour Titan. Titan va nous parler en titanien. Il va falloir décrypter le langage de Titan. Et donc, on fait ça, et je fais ça avec des expériences de laboratoire pour non seulement comprendre les données qu'on reçoit, les interpréter, voir s'il y a des traces de vie, parce que c'est pas comme dans les films où on a un bouton qui s'allume et qui dit « life detected », c'est pas du tout ça, c'est des années de traitement de données, le signal est extrêmement complexe pour savoir différencier. Est-ce qu'il y a une molécule, de quelle origine est cette molécule, etc. C'est vraiment des années de traitement, des fois une donnée qui va nous prendre des années de traitement. Et donc, faire des analyses en labo pour comprendre ces données et également pour prévoir les prochaines manips qui vont être effectuées sur Mars, sur Titan. Parce qu'une fois qu'on a envoyé un rover ou un drone quelque part, il ne se débrouille pas tout seul. Tous les jours, il y a des séquences où les scientifiques vont lui donner quelque chose à faire pour la journée. Et après, le soir, il va nous renvoyer les données en disant « Voilà, tu m'as dit de faire ça aujourd'hui, je l'ai fait, voilà ce que ça donne. » Donc, on récupère les données. Donc, on le contrôle de manière journalière pour qu'il effectue ses expériences. Et donc, on peut ajuster en fonction des résultats qu'on obtient en labo. On va dire « Bon, voilà, tu m'as envoyé ça comme données hier, je l'ai traité, j'ai fait des expériences de labo. Je pense qu'il faudrait refaire, mais avec une température différente. »
De quoi êtes-vous, alors je ne sais pas si c'est le mot, mais de quoi êtes-vous le plus fier ou qu'est-ce qui vous a suscité le plus d'émotion dans les travaux, les recherches que vous menez depuis plusieurs années pour rechercher des traces chimiques hein, de vie passée extraterrestre?
Sur Mars, typiquement sur l'instrument SAM de Curiosity, qui est l'analyseur chimique, on est donc capable de détecter des molécules. Et on a beaucoup de molécules qui se trouvent internes à l'instrument. Donc, sur chaque expérience qu'on va faire, on a une centaine de molécules qui se trouvent là. On connaît précisément leur origine, leur quantité, etc. Et parmi ce spectre de centaines de molécules, de temps en temps, on va trouver une molécule qui n'est pas censée être dans donc ce qu'on appelle le background de l'instrument. Et donc, là, il y a une chance que ce soit ben, martien. Et c'est ce qui s'est passé avec un certain type de molécule. Alors, un noyau aromatique avec un chlore, on l'appelle le chlorobenzène. Et ce chlorobenzène, ça a été la première molécule organique martienne à être découverte. Et donc, j'ai eu la chance et l'honneur d'écrire le papier scientifique sur cette molécule. Donc, finalement, je suis la première auteure de la première découverte de molécules organiques martiennes, ce qui est une grande fierté, bien évidemment.
Et voilà comment l'astrochimiste Caroline Frécinet, qui a effectivement de quoi être fière, a découvert la première molécule organique sur Mars et qui sait bientôt sur Titan. Elle y travaille actuellement autour de la question jusqu'où nous entraîneront toutes ces femmes de science, jusqu'au cœur de la matière ordinaire cachée dans l'univers. Matière ordinaire, mais découverte extraordinaire, réalisée par une chercheuse à la fois modeste et géniale, Nabila Aghanim, astrophysicienne et cosmologiste algérienne à l'Institut d'astrophysique spatiale du CNRS à l'Université Paris-Saclay. Nabila a mis en évidence, c'est en novembre 2020, pour la première fois, les baryons manquants dans la toile cosmique de l'univers. De quoi ouvrir vraiment une nouvelle fenêtre sur l'origine du monde et sur son évolution, rien que ça. Une découverte sidérale qui est un peu le Graal de tous les astrophysiciens, à ne pas confondre tout de même avec la matière noire, comme nous l'explique la très dynamique et la très sympathique découvreuse de la matière extraordinaire cachée de l'univers, la cosmologiste algérienne Nabila Aghanim.
En cosmologie, on a beaucoup de Graal, on a de la chance, on est très très actifs. Il y a plein de questions fondamentales qui s'ouvrent à nous sur l'évolution, l'histoire de l'univers. Et l'une d'entre elles, elle est finalement assez simple, oui, parce qu'elle ne se rapporte pas à l'étude de particules ou de matières exotiques, ce qu'on appelle justement la matière noire. Cette matière noire dont on sait qu'elle existe parce qu'on en voit les effets indirectement, on en voit les effets notamment à travers l'évolution des amas de galaxies, leur formation. On la voit à travers les distorsions, les déformations de la lumière autour des objets massifs. On appelle ça l'effet de l'entillage gravitationnel. Donc cette matière noire qui est en fait faite de particules exotiques dont on ne connaît pas la nature et qui forme quand même 25% du contenu de l'univers, cette matière très très exotique, n'est pas ce sur quoi on travaille. Ce sur quoi on travaille avec mon équipe à l'Institut d'astrophysique spatiale, c'est la matière ordinaire, la matière toute simple. On l'appelle dans notre jargon la matière baryonique.
C'est la matière qui nous constitue, enfin qui constitue tous les galaxies, les planètes, les étoiles, nous, ce micro.
Tout à fait. En fait, les baryons, la matière ordinaire, sont essentiellement des neutrons et des protons qui forment les noyaux des atomes. Et les atomes forment les molécules nous forment. Donc en fait, c'est effectivement cette matière qui forme toute ce qui est accessible aujourd'hui au toucher. Ça forme les étoiles, ça forme les planètes, ça forme les tables, ça forme tout. Et cette matière ordinaire, elle ne constitue qu'environ 4 à 5 %, enfin moins de 5 % du contenu de l'univers entier. Donc c'est une toute petite fraction, mais c'est la fraction la plus importante finalement, parce que c'est la fraction qui nous forme, qui forme la Terre et qui forme tout ce qui est autour de nous.
Et oui, c'est grâce à ça qu'on est là.
Tout à fait. Mais par contre, cette matière, elle réside effectivement dans des puits, dans des méandres qui sont constitués de cette matière noire, exotique. Et il est très important que ces deux types de matières coexistent l'une avec l'autre, parce que la l'endroit, les positions, les conditions physiques de formation des étoiles, de formation des planètes, vont dépendre finalement de leur squelette de matière noire. Et par contre, toute la chair, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va pouvoir percevoir, eh bien ça, ça sera fait par la matière ordinaire.
Et dans cette matière ordinaire-là, donc vous dites la chair, hein, finalement, si le squelette, c'est les matières noires exotiques qu'on ne connaît pas du tout, dans cette chair, il y avait quand même 40% de matière qu'on n'observait pas, qu'on ne détectait pas, qu'on ne connaissait pas, qui était cachée.
Exactement. Qu'on ne pouvait détecter et qu'on pouvait prévoir, prédire, notamment via des simulations numériques, via des études théoriques, et dont on savait finalement que cette quantité, cette grande quantité, environ 40% de la matière ordinaire, devait exister là, justement, autour de ce squelette de matière noire, dans une forme de gaz ténu, donc très peu dense, chaud, mais pas assez chaud pour émettre très fortement dans les rayons X, et dont on n'arrivait pas à percevoir finalement ni la lumière, ni les traces, parce que nos télescopes actuels n'étaient pas capables de le faire directement.
Donc indétectable, inobservable. Alors comment vous avez fait?
Indétectable, inobservable avec nos télescopes actuels, sauf à tricher un peu, à ruser un peu, en empilant l'information, en faisant des études statistiques. Et en fait, pour détecter cette matière, il était absolument inconcevable de la détecter de manière directe dans un filament de la toile cosmique.
Un filament de la toile cosmique. La toile cosmique, c'est des filaments avec du vide au milieu.
Tout à fait. Okay. En fait, les filaments de la toile cosmique, c'est un petit peu, on peut voir ça comme un réseau autoroutier. Alors, les villes sont les nœuds des filaments. En fait, on appelle ça des amas de galaxies dans notre jargon. Les filaments, ce sont les réseaux autoroutiers. Donc, il y a des autoroutes, il y a des routes, il y a des petites départementales, il y a même des sentiers. Et à travers ce réseau, ces filaments, la matière va évoluer, va couler et va se diriger vers les nœuds, va finir par former de gros amas de galaxies, mais néanmoins, pendant très longtemps, pendant la majeure partie de l'histoire de l'évolution de l'univers, cette matière reste à se déplacer dans ce réseau, dans ces filaments, et elle est là, elle se déplace, elle va couler lentement vers les amas, mais elle va couler lentement. Et donc, il faut la capturer, on a le temps de le faire, hein, ça se passe sur l'équivalent d'une grande fraction de l'âge de l'univers, mais on ne peut pas observer un seul filament, un seul réseau. On est obligé d'empiler l'information. Et empiler l'information, ça veut dire détecter un très grand nombre de ces filaments. On en a détecté 24 000. Parmi eux, 15 000 ont été sélectionnés parce qu'ils avaient les bonnes propriétés, notamment les bonnes propriétés d'information et ainsi de suite. Et on a empiler cette information, on a dit plutôt que de regarder un filament, regardons la moyenne, bon, des quantités plus compliquées que la moyenne, hein, je vais vous passer les détails,
merci.
Mais le signal de ces 15 000 filaments, et avec ce signal de ces 15 000 filaments, eh bien finalement, on augmente notre probabilité, on augmente l'information de chacun. C'est un peu l'intelligence collective, quelque part. On augmente l'information qui réside dans chacun des filaments. Et on peut détecter, là, du coup, cette matière qui était, jusqu'à présent, inaccessible à nos observations.
La matière noire ordinaire cachée de l'univers, dévoilée par l'astrophysicienne et cosmologiste algérienne Nabila Aghanim. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les femmes de science, on en redemande et c'est pas fini. On va aussi aborder des questions qui fâchent, notamment les chercheuses au sud, hein, à suivre avec l'anthropologue de la santé nigérienne Aïssa Diarra et l'immunologiste kényane Yvonne Bourou. Juste après, un petit hommage très personnel, je dois dire, que j'ai envie de rendre à une des voix les plus puissantes du rail algérien. Cher Harimiti, que vous entendez sous ma voix, cher Harimiti, la rebelle, souvent effacée de la photo musicale des années rail, c'est elle, l'Harimiti, qui a été l'inspiratrice de plusieurs générations d'artistes souvent copiés, jamais égalés. La preuve tout de suite avec « Y'en a marre ». C'est avant sa mort en 2006, sur la scène sur la scène du Satellite Café.
J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Quand c'est fini, j'en ai marre. J'en ai marre.
Écoutez RFI autour de la question.
Rock puissante et rebelle à tous les extrémismes, cher Harimiti, sur RFI. Il y en a marre. En ce 8 mars 2021 sur RFI, autour de la question jusqu'où nous entraîneront les femmes de science. Direction maintenant quelques questions qui fâchent et qu'il nous faut soulever ensemble, au nord comme au sud. Il en est de plus question justement aujourd'hui, c'est de la science ouverte, de la science partagée. Mais comment et surtout pour qui, pour que tous les chercheurs et surtout toutes les chercheuses au sud en profitent vraiment, surtout quand ce sont elles qui prennent tous les risques au sens propre. Je propose d'écouter l'éclairage, le témoignage impressionnant d'Aïssa Diarra. Elle est médecin, anthropologue et chercheuse rattachée, associée à l'IRD, au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey, au Niger. Aïssa Diarra avait partagé ses pistes de recherche, mais aussi ses réticences au micro de Charlie Dupiot lors du grand colloque organisé par l'IRD à Dakar à l'automne 2019, consacré justement à la science ouverte au Sud et aux femmes, mais ouverte jusqu'où et dans quel sens? On écoute l'anthropologue Aïssa Diarra en toute honnêteté.
En fait, il n'y a aucun problème de publier des articles. C'est même ce que nous recherchons dans le domaine de la recherche. Le gros problème, c'est le partage des données primaires. Jusqu'où on peut aller? Est-ce que même tout ce qui était les notes de terrain qui sont considérées comme la cuisine interne du chercheur peuvent être partagées? Ce qui est clair dans mon laboratoire, ce sont ces données primaires-là qu'on ne peut pas partager en aucune manière. Parce que nous avons été victimes de plagiat, même avec nos rapports, les rapports que nous publions sur notre site. Ce sont des rapports qui ont été plagiés sans qu'on nous cite en tant qu'auteur de ces données.
Mais qui fait ça?
On a vu que c'est des chercheurs du Nord, mais aussi de nos collègues chercheurs du Sud aussi qui font de telles pratiques. Et d'autant plus qu'on le sait, dans ce contexte d'insécurité où, par exemple, au Niger, on le sait, on prend de gros risques pour produire des données primaires.
Concrètement, vous, dans votre travail, c'est quoi les données que vous allez chercher sur le terrain?
Et ce sont les transcriptions des entretiens, ce sont les notes de terrain. Dans le cadre de la planification familiale, par exemple, si je travaille sur un tel sujet, je peux aller dans la région de Diffa.
À la frontière avec le Tchad?
Oui, c'est ça. Où il y a Boko Haram qui évolue près du lac Tchad. Et je vais avoir des entretiens avec des femmes, mais aussi avec des hommes, sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes.
Donc c'est quoi? C'est la pilule?
Oui, c'est la pilule. Ça peut être les injections, le stérilet. L'utilisation de ces méthodes contraceptives a reculé au Niger de 12%. Le taux est revenu à 11% entre 2012 et 2017. Il y a une résistance. Et donc, ce sont des questions sensibles. On est dans la théorie du complot. C'est une manière pour l'Occident de nous empêcher d'avoir des enfants. Il y a la religion qui compte comme facteur important dans ces résistances à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Je retourne sur le terrain dans des régions assez éloignées de la capitale de Niamey, à 1000 km de Niamey par exemple, donc dans la région de Diffa.
Vous concrètement, en tant que chercheuse, quand vous allez là-bas, à quel risque vous faites face ?
Il faut dire que de plus en plus, je fais de cauchemars parfois. Je me dis, ben voilà, en plein entretien avec une femme ou des enfants, ben voilà, des djihadistes qui arrivent et qui canardent, enfin qui égorgent ou qui tuent tout le monde. Moi, je fais des cauchemars comme ça. Et l'une des manières de surtout de se faire remarquer, c'est de partir avec un collègue du Nord. J'y vais deux ou trois fois dans l'année. Par exemple, dans quelques mois, je retourne sur le terrain et je devrais y aller avec une collègue du Nord et j'appréhende beaucoup. C'est des risques. Comme on le dit entre nous, chercheurs du Sud, eux, on les enlève, nous, on nous tue tout de suite parce qu'on n'a aucune valeur à leurs yeux. Et donc, si je collecte, par exemple, des données primaires comme ça, donc des transcriptions d'entretien avec une femme au fin fond de Diffa, en tant que chercheur, je préférerais les valoriser et faire une publication scientifique plutôt que de mettre ça à la disposition de tout le monde. Et je sais que moi, voilà, j'aurais pas mon nom qui serait cité. Ça veut dire que je ne suis pas, je disparais, je deviens anonyme. Malgré tous les efforts que je fais pour accéder à ces données, il faut avoir une bonne visibilité dans notre domaine. Ça aussi, c'est clair, c'est une réalité de la recherche. Mais il faudrait que les règles soient bien écrites de la science ouverte par les chercheurs du Sud eux-mêmes et non pas du point de vue des chercheurs du Nord. C'est ma crainte. C'est assez profond, hein. C'est ce sentiment général du chercheur du Sud africain qui ne veut pas être celui qui va... C'est comme les matières premières, quoi. On pile les matières premières, on les amène, on transforme, puis on les ramène chez nous. Nous ne sommes pas là pour produire que des données primaires. Nous voulons être aussi là en tant que chercheurs dans la valorisation, donc dans la production des articles. On est toujours dans ce passé colonial qui fait que, voilà, parfois il y a des résistances systématiques. C'est une question de confiance et, pour le dire sincèrement, on n'a pas vraiment confiance, en tout cas sur ce plan.
L'anthropologue de la santé Aïssa Diarra, propos recueillis par Charlie Dupio, propos qui devraient tous nous faire réfléchir pour avancer justement. Il faut absolument qu'on écoute et qu'on entende ces femmes de science pour nous faire avancer ensemble, au nord comme au sud, autour de la question jusqu'où nous entraîneront-elles. Ces femmes de science, je propose de terminer ce tour d'horizon avec Yvonne Mburu à Nairobi, au Kenya, cette chercheuse en immunologie qui est par ailleurs directrice scientifique de la saison Africa 2020, spécialiste donc d'immunologie, de cancérologie, est aussi entrepreneuse, créatrice de Nexakili, un réseau de médecins, de scientifiques, d'entrepreneurs, de chercheurs, de chercheuses africains, avec lesquels elle a travaillé toute cette année 2020, cette année 2021, depuis Nairobi au Kenya, notamment pour modéliser l'évolution du coronavirus sur le continent. Une année fructueuse depuis Nairobi au Kenya où je l'ai joint. Yvonne Mburu partage avec nous ce qu'elle a retenu, ce qui est en train de se passer en ce moment même sur le continent du côté des chercheurs et des chercheuses africaines.
Cette année que j'ai passée en Afrique, ça fait maintenant un an, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questionnements. Parce que avant ça, je dois vous donner l'histoire, c'est que j'ai passé 20 ans à l'étranger. Donc c'est quand même plus de temps à l'étranger qu'en Afrique. Pour faire mes études, d'abord je fais mes études de premier cycle, après je fais mes études de doctorat aux États-Unis, et puis je suis venue en France en 2012. Et donc ça faisait quand même énormément de temps que je n'avais pas passé véritablement un long moment en Afrique. Et là, ça fait un an, et ça m'a fait questionner beaucoup de choses, et pas seulement les choses qu'on peut penser, mais même mon engagement dans cette question Afrique, science en Afrique, la jeunesse en Afrique, tout ce qu'on fait. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, au fond, avec la pandémie, que j'ai pu constater dans le monde en général, c'est qu'il y a quand même un rôle majeur que jouent les gouvernements. C'est que quand on est en pleine pandémie, c'est vrai que tout le monde doit amener sa pièce à l'édifice, Mais finalement, si le gouvernement ou la puissance publique n'est pas au rendez-vous, ça devient très difficile de ramasser tous ces efforts en quelque chose qui soit véritablement à l'impact positif. Et donc, moi, ça m'a fait questionner beaucoup de choses parce que je suis moi-même entrepreneur et j'ai vu les limites de ce que je pouvais faire, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, je suis très fière de ce qu'on a pu faire, mais j'ai vu que mon action, pour que ça arrive à l'échelle, il nous faut absolument une puissance publique qui s'inquiète, mais chaque jour de son existence, du bien public, en fait. Et c'est ce qui nous manque en Afrique, malheureusement. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait discuter ce qu'on fait, les jeunes entrepreneurs, ce qu'on fait, les scientifiques, les chercheurs, etc., mais qu'on arrivera toujours devant un mur qui nous bloque. Et c'est effectivement le fait qu'on parle trop peu, je crois, de la puissance publique et son rôle, et pourquoi on ne peut plus continuer comme ça en Afrique si on veut véritablement adresser les grands enjeux auxquels nous devons faire face. C'est-à-dire, il y a quand même des grands enjeux mondiaux comme le climat, etc., mais en Afrique, on a d'autres enjeux autour de la santé, autour de l'éducation, autour des villes durables, autour de cette démographie croissante qui doit absolument avoir les moyens de pouvoir contribuer à la société, etc. Ce sont des enjeux extrêmement grands. Et c'est pas en ramassant des petits projets qu'on va y arriver. C'est véritablement en ayant une vision, une grande vision de ce qu'on veut devenir dans 30 ans, dans 50 ans, et en se mettant, mais alors, complètement à ce travail sans relâche. Donc ces questionnements-là, en fait, m'ont amené à penser beaucoup, en fait, de ce que je peux faire du point de vue, pas seulement politique publique, mais de vouloir comprendre véritablement pourquoi il n'y a pas autant d'accent sur la puissance publique et sur son rôle. Parce que si vous voulez, en Europe, en tout cas, moi, je n'entends pas un discours qui consiste à dire qu'est-ce qu'on fait les jeunes européennes pendant le Covid. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Je ne l'entends pas non plus en Amérique du Nord, je ne l'entends pas véritablement en Asie, mais je l'entends en Afrique. C'est comme si on avait accepté que de toute façon, la puissance publique, voilà, on sait que ça ne fonctionne pas très bien, voilà. Donc on va oublier tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait les gens? Hey, les gens ont fait un travail remarquable, mais ça ne suffira jamais tant que la puissance publique soit au rendez-vous.
Message reçu, on l'espère en tout cas. On retrouvera Yvonne Bourou ce mercredi autour de la question de la modélisation du Covid en compagnie d'une autre chercheuse d'exception, la modélisatrice Vittoria Colizza. Merci à Hugo Violas pour la réalisation de cet Autour de la question très féminin et très inspirante. Merci à Caroline Fillette en coulisses, bien sûr. Merci de votre fidélité, chers amis auditeurs, auditrices, internautes, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des